Bonjour tout le monde. Et effectivement, c'est une joie, c'est un privilège d'être avec vous ce matin, de partager la parole de Dieu avec vous. Merci beaucoup Serge de m'avoir introduit, de m'avoir présenté. Eh bien, je te rassure que tu n'as égorgé aucun mot. Tu as bien prononcé. Mais c'est juste une anecdote hein, que les Malgaches, enfin en général, on a le nom long, mais petite de taille. Et là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Quand j'ai rencontré mon frère Sulofu, voilà, je suis rassuré que on est dans cette gamme. Mais on est reconnaissant à Dieu que Dieu nous a fait ainsi. Et encore que mon prénom est Annie, aussi c'est pas très très courant. On voit pas souvent un Annie masculin. On connaît des Annie E, mais pas Annie sans E. Voilà. Mais le message d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le nom long et de petite taille, ou encore le prénom masculin, prénom féminin porté par un homme, mais plutôt quelque chose qui est en lien avec la pression. Je ne sais pas si vous connaissez des pressions. Est-ce que cela vous est arrivé d'être sous pression ? Peut-être pas beaucoup. En tout cas, c'est un sujet que nous rencontrons souvent dans notre vie. Et comme texte, nous avons le chapitre 3 tout entier de Daniel, Daniel 3. Mais comme notre texte est assez long, on ne va pas lire tout le chapitre, mais je propose quand même de lire le cœur du message qui se trouve dans Daniel 3 à partir du verset 15. Donc c'est Nebuchadnezzar qui parle ici. Et après, c'est les trois Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego qui vont répondre. Donc Nebuchadnezzar qui dit « Maintenant, tenez-vous prêts. » Et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la sitar, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Amen. Voilà, donc je voudrais quand même parler un peu du contexte pour pouvoir bien comprendre le cœur du message. J'avais dit tout à l'heure que ici on peut trouver une situation où le roi met la pression sur les Juifs, les trois Juifs notamment, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais c'est bien de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avant et après pour situer un peu le contexte de notre texte. Dans Daniel 2, dans le chapitre 2 de Daniel, on rapporte le début du règne de Nebuchadnezzar. Donc environ vers l'an 602. Et dans le chapitre après, dans Daniel 4, on rapporte la fin du règne de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire vers en 568 ou 562 à peu près. Daniel 3, donc, est au milieu. Probablement qu'il s'est passé un certain temps entre la révélation du rêve que Daniel a donné au roi et la situation qu'on a dans notre texte. On sait aussi que les trois jeunes gens vivent dans un monde païen. Ils sont déportés. Et on sait aussi que dans Daniel 1, le chapitre 1, on raconte comment ils étaient choisis pour être des serviteurs du roi. On peut voir aussi dans le chapitre 1 que le nom de ces trois jeunes gens était changé. Je ne sais pas si oui, vous connaissez, puisque c'est écrit dans la Bible, que leur nom il était mentionné en hébreu. Donc, il y a Anania, et ce nom hébreu veut dire « Yahvé a été gracieux » ou encore « Yahvé est gracieux ». Mais on a transformé ça en langue babylonienne en « Shadrach » et qui veut dire « craintif », le « craintif ». Et le deuxième jeune Jean qui s'appelle... le deuxième jeune homme qui s'appelle Michaël en hébreu et qui veut dire « Qui est comme Yahvé ?» Et on a transformé, on a changé son nom en Meshach, qui se traduit par « parmi le plus petit ». Donc il y a vraiment un décalage, hein, il n'y a rien à voir entre le nom hébreu et le nom babylonien. Azaria, le troisième jeune homme qui s'appelle Azaria, et qui veut dire « Yahvé a aidé ». Et on a changé son nom en Abednego, ou « serviteur de celui qui brille ». Et dans la coutume babylonienne, donc « celui qui brille » indique ou parle du dieu Nabu, d'où vient le nom Nabuchadnezzar d'ailleurs. Si on revient un tout petit peu au chapitre 2, Nebuchadnezzar a fait un rêve qui l'a troublé. On connaît tous cette histoire, mais je voudrais quand même résumer un tout petit peu. Et ce rêve l'a troublé. Il a demandé à ses conseillers de lui raconter son rêve et de lui donner une interprétation. Donc il a mis une pression sur ses conseillers. Et s'ils ne révèlent pas le rêve du roi et son explication, ils seront mis en pièces et leurs maisons seront transformées en état de décombre. En revanche, s'ils révèlent au roi le rêve et son explication, ils recevront de sa part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. L'histoire nous rapporte que personne ne pouvait satisfaire cette demande surréaliste du roi. Mais il y avait un Daniel. Le nom de Daniel qui veut dire « Dieu est mon juge ». Donc, dans tout le livre de Daniel, on va voir ce Dieu juste, juge, et qui se révèle particulièrement ou bien pas nécessairement pas aux Juifs, puisqu'ils sont déportés, mais ce Dieu qui s'est décidé de se révéler aux non-Juifs, aux païens. Et c'est merveilleux, puisque donc à partir de là, on peut être encouragé que ce message d'espoir du Dieu créateur n'est pas réservé aux Juifs, mais qui nous est aussi adressé à nous. Et donc, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait conviction que Dieu pouvait lui révéler le rêve du roi. Il était convaincu. Et il a demandé un délai auprès du roi. Il a demandé un délai pour qu'il puisse prier, pour qu'il puisse demander à son Dieu de lui révéler quel rêve le roi a-t-il fait. Et aussi, il a demandé auprès de ses amis, donc les trois jeunes gens qu'on vient de mentionner tout à l'heure, d'intercéder auprès de Dieu afin qu'il intervienne. Et la suite de l'histoire nous montre que Dieu a effectivement révélé à Daniel le rêve du roi et lui a donné son explication. Daniel a expliqué au roi qu'il était la tête du statut, la tête en or, mais qu'il aura d'autres rois moins puissants que Nebuchadnezzar et qui vont aussi régner en lui succédant. Et sur le champ, Nebuchadnezzar semble être touché par la révélation de Daniel. Il a même changé de propos. Au début, il a décidé de tuer, de faire mourir ses conseillers, y compris Daniel. Mais quand Daniel a révélé le rêve du roi, au verset 47 du chapitre 2, je cite, il déclara, le roi Nebuchadnezzar, « Votre Dieu est le Dieu des dieux. » Il a parlé à Daniel. « Votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain roi des rois et qui relève les secrets. » C'est une confession de foi, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et que ce n'est pas loin d'une confession de foi évangélique. Le roi des rois, le Dieu des dieux. Et en plus, il a élevé Daniel à une haute position. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Il lui a donné également de nombreux grands cadeaux, comme il a promis. Mais dans toute cette situation, Daniel n'a pas oublié ses amis et il a fait une demande auprès du roi. Et à sa demande, Nebuchadnezzar confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Pour les trois juifs, c'est une excellente nouvelle, hein? C'est une nouvelle réjouissante, géniale pour eux, mais pas pour les Babyloniens, car ils étaient jaloux. Et d'ailleurs, on y reviendra dans notre texte. Au début, j'avais dit que l'histoire qu'on va voir est en relation avec la pression. Mais justement, je vous encourage et je vous suggère aussi de lire le livre de Daniel en entier. C'est un livre régorgeant d'encouragement dans des situations difficiles. C'est un livre régorgeant de témoignages de ce Dieu qui sauve, ce Dieu juste, juge et présent dans notre vie. Il est possible que quelques années se soient écoulées et puis Nebuchadnezzar s'est souvenu de son rêve et voulait matérialiser son rêve en érigeant une statue. Dans l'explication et dans la révélation, Daniel lui a dit que c'était Nebuchadnezzar qui était la tête de la statue. Il était la tête en or. Et effectivement, il est dans sa puissance à ce moment-là. Mais vraisemblablement, le roi voulait rejeter l'idée que d'autres rois allaient lui succéder. Alors, il a lui-même érigé une statue en or. Ceci dit, il s'est accroché aux aspects flatteurs de l'interprétation. Mais il renia tout le reste. Il n'a pas digéré que d'autres rois allaient le succéder. Mais il a érigé la statue. Et on nous dit ici qu'il a érigé une statue en or, mais probablement cette statue n'était pas faite en or massif, mais en or plaqué. C'est une pratique courante dans l'Empire babylonien. Étant donné que cette statue est immense, 3 mètres sur 30. Vous imaginez, 30 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur comme statue. Et si elle devait être constituée d'or massif, cela aurait demandé une énorme quantité d'or. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut aussi lire dans la Bible que des idoles plaquées en or étaient mentionnées, par exemple dans Ésaïe. On peut voir ça dans Ésaïe, chapitre 40, et verset 19. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Qu'est-ce que ça veut signifier? Que le roi, il a voulu montrer sa puissance, donc il a voulu ériger une grande statue, il a voulu impressionner son peuple. Donc c'est l'image d'un empire extérieurement brillant, fort, mais à l'intérieur, ce n'est que du bois et ce n'est pas solide non plus. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui est autour de notre texte. On peut aussi voir qu'il y a plusieurs répétitions, notamment à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Par exemple, si on peut lire le verset 1, « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. » Et si on continue à lire plus tard, on va voir que cette phrase « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or et la dressa. » Le roi Nebuchadnezzar érigea une statue d'or. Ça va revenir 10 fois. Verset 1, verset 2, verset 3, ainsi de suite. Une autre répétition qu'on trouve ici aussi, c'est la convocation des satrapes. On peut lire dans verset 2 de notre texte. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Et donc cette convocation se répète aussi à maintes reprises, ou plus exactement 3 fois, dans le verset 2, verset 3 et plus tard dans le verset 27. Et encore une fois, encore une autre répétition, c'est le verset 4. Donc, à partir du verset 4, surtout à propos des instruments de musique. Verset 4, « À vous, peuple, nation et homme de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger et vous l'adorerez. » On voit que la mention des instruments de musique est répétée aussi 4 fois dans tout le texte, au verset 4, 7, 10 et 15. Qu'est-ce que toutes ces répétitions peuvent nous dire? On sait et on comprend que quand il y a des répétitions dans la Bible, c'est vraiment important. Mais est-ce que c'est vraiment important pour notre foi de savoir que le roi a fait ériger une statue? Est-ce que c'est vraiment important de savoir qu'il a fait convoquer tous ses conseillers? Est-ce que c'est vraiment important de savoir que... quel genre d'instrument de musique il a utilisé pour annoncer aux gens de se prosterner devant la statue d'or que le roi il a fait ériger. Alors, je peux dire que, effectivement, il n'y a pas vraiment une grande importance de connaître tout ça. Mais on peut, ou l'auteur peut, voulait souligner une rigueur, une certaine rigueur de l'Empire babylonien. Peut-être que l'auteur voulait dire qu'il n'y avait pas d'exception. Dans, il voulait insister sur ces répétitions. Et c'est l'image du monde qui donne une certaine rigidité. Et on peut voir ça dans notre vie, dans le monde. Apparemment, il y a une certaine rigidité. Et d'ailleurs, c'est plus facile d'exercer une pression sur quelqu'un quand la loi est rigide, n'est-ce pas? Mais on peut aussi noter un contraste entre le comportement du roi, qui est extrêmement fâché quand, quand on lui a rapporté que les jeunes juifs ne voulaient pas prosterner devant la statue d'or qu'il a fait ériger. Donc le roi, il est extrêmement fâché. Et il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Le contraste entre l'attitude du roi et l'attitude des 3 Hébreux qui étaient extraordinairement calmes alors que leur situation est catastrophique. Et on peut tirer de là déjà une leçon pour nous aujourd'hui. Je pense que dans le monde où on vit, cette pression augmente même. On voit cette pression, peut-être de nous éloigner de Dieu, mais de nous emballer dans certaines routines. Mais donc la leçon qu'on peut tirer ici, c'est de faire confiance en Dieu et être prêt à affronter même la mort. Il y a une question qui se pose ici. La question qui se pose, c'est est-ce que Dieu sauve toujours? Ou est-ce que Dieu ne sauve pas toujours? Eh bien, la Bible nous montre qu'il y a des moments où on voit vraiment l'intervention miraculeuse de Dieu, la délivrance de Dieu, bien souvent. Mais il y a aussi des moments où Dieu semble ne pas intervenir sur le champ. Par exemple, la situation de deux prophètes contemporains, le prophète Jérémie et le prophète Ouriahou. On peut lire ça dans Jérémie chapitre 26. Jérémie 26 et le verset 20. Aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Ouriahou, fils de Shemayahou, de Kiriat et Arim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays par des paroles tout à fait semblables à celles de Jérémie. Le roi Jéhoiakim, tous ces vaillants hommes et tous ses ministres entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Ouriahou, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et se rendit en Égypte. Par contre, le prophète Jérémie a été délivré miraculeusement. On voit aussi un autre parallèle entre Pierre, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques dans Actes 12. Nous savons que Hérode, le roi Hérode, quand il était aussi fâché, il a fait périr Jacques par l'épée. Il a fait tuer Jacques par l'épée. Par contre, Pierre a été délivré par un ange dans la prison. Dans Hébreux, dans le chapitre 11 de Hébreux, verset 35, la Bible nous dit que d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ici, on peut admirer, moi, particulièrement j'admire l'attitude de foi de ces trois jeunes juifs, qui nous révèlent plutôt une véritable confiance soumise à la volonté de Dieu. Eh bien, Job, il a dit, même s'il me tuait, même si Dieu me tuait, je continuais à espérer en lui. Ce n'est pas une manque de foi. Ce n'est pas une peur mal placée de nous soumettre à la volonté de Dieu. Au contraire, c'est une expression de foi. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère et il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Et en reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus que d'habitude. Cette fois plus que d'habitude, ça veut dire quoi? À titre d'information, je voudrais vous dire que les Babyloniens, ils étaient aussi connus dans des travaux artisanaux. Et pour faire fondre du métal, par exemple, pour faire fondre de l'argent, il faut 960 degrés. Pour faire fondre du cuivre, il faut plus de 1000 degrés. Et pour l'or, pareillement. Cette fois plus que d'habitude, est-ce que c'est chauffer la fournaise jusqu'à 7000 degrés? Eh bien, peut-être que l'auteur veut exprimer ici une certaine manière de dire les choses en exagérant un peu. Est-ce que c'est juste d'exagérer dans la Bible? Mais on peut parler d'hyperbole. Donc cette fois veut dire vraiment chauffer à très haute température, mais peut-être pas nécessairement jusqu'à 7000 degrés. Mais si l'intention du roi était de faire torturer les trois jeunes juifs, cette décision de faire augmenter la température de la fournaise était insensée, stupide. Car les trois juifs seraient brûlés immédiatement et ils auraient alors moins souffert que si la température a été modérée. De plus, la Bible nous rapporte que le roi a perdu quelques-uns de ses soldats quand ceux-ci ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Et là, on peut avoir une illustration parfaite de l'incapacité totale de l'homme à toucher la vie de quelqu'un au-delà des limites que Dieu a placées. Dieu a placé des limites. Et dans Matthieu 10, on peut lire, c'est Jésus qui encourage ses disciples, les croyants. Jésus qui dit, ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. On peut lire ça dans Matthieu 10, 28. Par contre, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, parce que notre Dieu est un feu dévorant. On peut lire ça dans Hébreux 12 et verset 29. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Et on peut voir aussi ici un contraste entre l'impuissance des trois juifs et la puissance de Dieu pour les libérer. Et de là, on peut avoir un encouragement que rien n'est impossible à Dieu. Et dans Jérémie 32, nous pouvons lire que il n'y a rien de difficile à notre Dieu. Eh bien, le roi, après il a repris, eh bien j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Donc, on a jeté les trois jeunes gens dans la fournaise, ligotés. Mais le roi, il a vu quatre personnes totalement libre dans ce feu ardent. Et si nous revenons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 34, c'est en lien avec les héros de la foi. Il est dit ici que parmi eux, quelques-uns éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent veillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Donc quand on fait référence à ceux qui éteignirent la puissance du feu, probablement ça a un lien avec le récit qu'on a ici. Et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar probablement ne sait pas ou ne pouvait pas décrire l'image qu'il a vue. Mais quand il a dit, il ressemble à un des messagers, à un des fils de Dieu, il a vu quelque chose d'extraordinaire dans le feu, dans la fournaise ardente. Et il y a une histoire dans la Bible qui nous est rapportée et qui ressemble peut-être avec ce récit. Il y a sans doute quelques différences, mais ça nous fait penser au buisson ardent qui nous est raconté dans Exode 3. Donc la comparaison entre le buisson ardent et la fournaise ardente. Le buisson brûlait, le buisson ardent il brûlait, mais il n'était pas consumé par le feu. Par contre ici on voit que les trois juifs ils étaient dans le feu, mais ils n'étaient pas consumés par ce feu. Et encore dans Exode 3, Dieu se révèle à Moïse seul. Dieu se révèle à une personne et après, il va se révéler aussi aux Juifs qu'il est Yahvé. Il est celui qui est. Et dans Daniel 3, Dieu se révèle à plusieurs personnes qu'il est celui qui est capable de sauver. Il ne se contente pas de se révéler, de se montrer aux Juifs, mais il se présente aussi, il se révèle aussi aux non-juifs, aux rois et à tout ce qui était autour, les conseillers, parce qu'ils ont vu cette intervention miraculeuse de Dieu. Et cette présence de Dieu dans la fournaise ardente est aussi une préfigure de la préincarnation du Christ. La présence de Dieu dans la vie de son peuple, qui fait face à des difficultés. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leur habit n'était pas abîmé et qu'ils ne sentaient même pas le feu. On trouve ça dans le verset 27 du livre de Daniel, chapitre 3 de notre texte. On peut voir ici la délivrance totale de Dieu. Quand la Bible nous dit que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, je pense que quelque chose qui est extrêmement inflammable, c'est les yeux, les cheveux, excusez-moi. Et quand la Bible dit ici que même les cheveux n'étaient pas brûlés, alors on voit cette intervention de Dieu qui libère, et quand il libère complètement. Aucun Israélite n'a péri dans la mer Rouge. Aucun soldat assyrien n'a survécu quand ils ont voulu attaquer Jérusalem lors du temps d'Ézéchias. Et la promesse que Dieu nous donne dans Jean 3, 16, nous connaissons très bien que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque le croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, une assurance totale pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Quelles sont les applications que nous pouvons tirer de notre texte? Je vous propose trois points, trois applications. Premièrement, Shadrach, Meshach et Abednego étaient convaincus pleinement et totalement de la souveraineté de Dieu. Ils étaient convaincus que ce Dieu créateur, il agit de la même manière en Égypte, il agit de la même manière en Israël, il agit de la même manière en Babylone, il ne change pas et il est capable de sauver. Quand ils ont dit au verset 16, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus au roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait dire que, roi, nous ne voulons pas nous défendre, nous ne voulons pas nous justifier, mais nous voulons nous soumettre à la volonté de Dieu. Il peut nous sauver. Et quand il est dit que même si Dieu ne va pas agir, est-ce qu'ils mettent en question la puissance de Dieu? Non, ils ne mettent pas en question la puissance de Dieu. Mais ils se soumettent à la volonté de Dieu. Deuxième application, les trois juifs connaissent la parole de Dieu. Dans chapitre 2 de Daniel, Daniel a demandé un délai car il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de la révélation du roi, du rêve du roi. Mais ici, les trois jeunes gens, ils n'ont pas besoin de délai pour réfléchir car ils connaissaient la volonté préceptive de Dieu. La volonté préceptive de Dieu, c'est la volonté qui fait référence aux préceptes, aux commandements que Dieu nous a donnés et que nous devons appliquer dans notre vie. Tout à l'heure, au début du culte, on a lu une promesse, mais il est dit, tu ne feras pas, si tu ne feras pas ceci, si tu ne feras pas cela. Dans Exode 20, nous pouvons lire, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et troisième application, c'est que ces trois jeunes juifs, ils sont prêts à mourir pour la cause de leur foi en Dieu. C'est très important, mes amis, car il est possible qu'on croie en un Dieu souverain. Il est possible qu'on sache ce que ce Dieu souverain nous demande dans l'Écriture. Mais il est aussi possible qu'on ne parvienne pas à faire les choses correctement, parce qu'on n'est pas prêt à obéir. Et l'obéissance à Dieu, ça a un prix. Je vous raconte une illustration, l'histoire du pasteur Joseph Tson. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Joseph Tson, c'est un pasteur roumain. Et avant son exil, il a été convoqué par les autorités communistes et a été questionné sur ses convictions religieuses. Il s'attendait à être exécuté. Alors, il a rangé ses affaires sur tous ses livres. Il a écrit des livres. Et avant de comparaître, il a dit « Je dois d'abord vous dire que je suis prêt à mourir. J'ai déjà arrangé mes affaires. Votre arme suprême, c'est tuer. Et la mienne, c'est mourir. Si vous me tuez, tous les Romains vont lire mes livres et plus croiront au Dieu que je prêche. » Et l'interrogateur a dit « Et qui parle de tuer ?» Alors, ils le relâchèrent. Aujourd'hui, le pasteur Joseph Tson est aux États-Unis. Et là, il prépare des messages de l'évangile radiophonique diffusé en Roumanie et écouté par beaucoup de Roumains. Joseph Tson, il est écouté parce qu'il a préféré mourir que de faire des compromis. Pour terminer, je pose une autre question. Que faire quand on est sous pression? La pression a existé du temps de Daniel, peut-être bien même avant. Et aujourd'hui encore, chacun de nous subissons différentes formes de pression dans notre vie, dans la famille, au travail et même dans l'église, malheureusement. Sans doute que nous répondons de différentes façons à ces pressions. Mais l'exemple tiré de notre texte biblique de ce jour a un rapport avec la foi en Dieu. La parole de Dieu me révèle sa volonté quand je suis dans l'épreuve. Est-ce que personnellement je continue à croire à sa souveraineté dans ma vie? Est-ce que je décide quand même de continuer à lui faire confiance? Il est écrit dans Romains 8, 28, nous connaissons très bien ce verset. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Il est donc de ma responsabilité de chercher cette volonté préceptive dans sa parole. Chers amis, aimez la parole de Dieu. Chérissez-la, lisez-la, méditez-la. C'est un trésor. Et dans cette parole de Dieu, il y a des passages clairs. Quand il est dit de pardonner, et qu'ainsi Dieu nous pardonnera. Nous n'avons plus besoin d'hésiter et de nous demander « je vais pardonner ou non ». La volonté de Dieu est claire. Et c'est l'obéissance que Dieu attend de nous. Que Dieu nous bénisse dans notre marche avec lui. Mais il nous encourage qu'il est puissant. Il a le vouloir de sauver. Il a le pouvoir de sauver. Là n'est pas la question. Mais la question est, dans notre marche quotidienne avec lui, voulons-nous nous soumettre sous sa bonne volonté parce qu'il connaît ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Amen. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, car tu es ce Dieu souverain. Et nous voulons le proclamer, Seigneur, dans notre vie, que tu es souverain dans notre vie personnelle. Seigneur, aide-nous à placer notre confiance en toi, entièrement, indépendamment de ce que nous pouvons attendre. Nous pouvons, Seigneur, faire face à des difficultés, mais dans ces difficultés, aide-nous à nous accrocher à ta présence, Seigneur. Car tu nous as promis que tu es là. Tu es ce Dieu qui est avec nous. Et que par notre vie, nous pouvons témoigner à notre entourage, Seigneur, que tu es ce Dieu capable de sauver. Tu es ce Dieu juste juge. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen.